L'actu philo, Claire Bressolette.
Alors l'actualité aujourd'hui, eh bien elle est très particulière. Nous fêtons un jubilé. Il y a 50 ans exactement, le 28 avril 1973, s'effondrait dans sa cellule en bois, petite cabane des petits frères de Foucault, Jacques Maritain à 7h du matin. Alors nous allons l'honorer. Et comment? Que retenir de Jacques Maritain? La conversion. Quelqu'un qui est proche de l'anarchisme. Il milite pour Dreyfus avec son camarade Ernest Picari. Il se demande à quoi bon vivre, même marié à Raïssa. Ils se disent tous les deux au Jardin des Plantes, nous allons nous suicider si nous ne trouvons pas de sens à la vie. Et voilà qu'il tombe sur la femme pauvre de Léon Blois, qu'ils vont voir l'auteur de ce roman merveilleux et qu'ils découvrent un chrétien pauvre qui vit les valeurs évangéliques. Parce que le chrétien de la messe de 11h en gants, beurre frais et en chapeau ne convenait pas à Maritain. C'était trop contradictoire. Alors voilà quelques narrations faites par Raïssa dans Les Grandes Amitiés, écrites pendant la Deuxième Guerre mondiale, le 25 juin 1905. Deux enfants de 20 ans montaient l'escalier sempiternel qui grimpe jusqu'au Sacré-Cœur. Ils portaient en eux cette détresse qui est le seul produit sérieux de la culture moderne, et une sorte de désespoir actif, éclairé seulement, ils ne savaient pourquoi, par l'assurance intérieure, que la vérité dont ils avaient faim, et sans laquelle il leur était presque impossible d'accepter la vie, un jour, leur serait montrée. Une sorte de morale esthétique les soutenait faiblement, dont l'idée de suicide semblait offrir l'unique issue. En attendant, ils se nettoyaient l'esprit, grâce à Bergson, des superstitions scientistes dont la Sorbonne les avait entretenus. Au demeurant, ils tenaient l'église, cachée à leur vue par d'ineptes préjugés et par les apparences de beaucoup de gens bien pensants, pour le rempart des puissants et des riches, dont l'intérêt aurait été d'entretenir dans les esprits les ténèbres du Moyen-Âge. Ils allaient vers un étrange mendiant qui, méprisant toute philosophie, criait sur les toits la vérité divine et catholique, intégralement obéissant, condamnait son temps. Et ceux qui ont leur consolation ici-bas, avec plus de liberté que tous les révolutionnaires du monde, ils avaient terriblement peur de ce qu'ils devaient rencontrer. Ils traversèrent un petit jardin d'autrefois, puis entrèrent dans une humble maison, aux murs ornés de livres et de belles images, et se heurtèrent d'abord à une sorte de grande bonté blanche dont la noblesse paisible impressionnait et qui était Madame Léon Blois. Léon Blois semblait presque timide, il parlait peu et très bas, essayant de dire à ses deux jeunes visiteurs quelque chose d'important et qui ne les déçut pas. Ce qu'il leur découvrait ne peut se raconter, la tendresse de la fraternité chrétienne et cette espèce de tremblement de miséricorde et de crainte qui saisit en face d'une âme marquée de l'amour de Dieu. Blois nous apparaissait tout le contraire des autres hommes, qui cachent des manquements graves aux choses de l'esprit et tant de crimes invisibles sous le badigeonnage soigneusement entretenu des vertus de sociabilité. Au lieu d'être un sépulcre blanchi comme les pharisiens de tous les temps, c'était une cathédrale calcinée, noircie. Le blanc était au-dedans, au creux du tabernacle. D'avoir franchi le seuil de sa maison, toutes les valeurs étaient déplacées, comme par un déclic invisible. On savait, ou on devinait, qu'il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints, et tout le reste devenait crépusculaire.